Alors, pourquoi j'ai pas vraiment choisi ce texte, mais voilà, il y a des choses, quand je lisais ce texte, il y a des choses, Dieu me disait, mon Église a besoin d'entendre cela. Donc je vous demandais de mettre vraiment votre main derrière votre oreille pour vraiment être à l'écoute. Voilà, parce que pourquoi Dieu a besoin de vous parler? Parce que Dieu veut vous entendre, Dieu veut être en relation avec vous, mais Dieu veut vous parler aussi. Et il ne veut pas juste vous parler le dimanche, il veut vous parler tous les jours. Tous les jours, il est à votre écoute, et tous les jours, il veut vous parler. Alors on peut être comme la deuxième image et être totalement sans sentiment, sans émotion, en disant, j'ai pas l'impression que Dieu me parle, je ne l'ai jamais entendu ou il ne m'a jamais répondu. C'est souvent cette interrogation en disant, Seigneur, je t'ai posé une question, pourquoi tu ne me réponds pas? Mais il y a le temps de Dieu. Dieu a promis à Abraham une descendance, il a attendu, il a attendu. Et l'attente, à mon avis, devait être longue. Pour un couple, je pense que ça doit être difficile de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et donc je me dis, c'est vrai que si un jour je me marie, c'est vrai qu'un jour si j'ai pas d'enfant, je dis, Seigneur, quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce qu'il y a une promesse qui va s'accomplir? Mais Dieu veut m'entendre, Dieu veut entendre ma requête. Et j'avais, quand j'étais enfant, j'avais ce petit signe que mes parents avaient mis au-dessus de la cuisine. Dieu est l'hôte invisible présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. Et j'avais toujours l'impression, en lisant ce panneau, qu'il fallait que je fasse attention à ce que je dise, que je dise pas de bêtises, parce que c'est Dieu qui m'écoutait. Et je me suis dit, au fond, Dieu m'entend. Peu importe ce que j'ai à lui dire, Dieu m'entend. Et Dieu veut m'écouter. Toutes mes petites choses, il me connaît, il m'a créé, il sait ce que j'ai besoin, il sait mes passions, il sait mes envies. Pourquoi je ne lui partage pas? Pourquoi je ne pourrais pas lui dire? Dieu, en tout cas, veut m'écouter. Et j'espère que vous êtes prêts ce matin, parce qu'on va ensemble parcourir ces 5 versets. C'est absolument infime, je veux dire, par rapport à tous les autres psaumes qu'il pourrait avoir, que j'aurais pu choisir. Mais ce psaume, j'espère qu'il va vous parler comme il m'a parlé ce matin. Voilà, je vais le lire. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il a pris la force pour ceinture. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Les fleuves élèvent au Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leur grondement. Plus que la voix des grandes eaux. De magnifiques vagues de la mer. L'Éternel est magnifique dans les lieux élevés. Tes préceptes sont entièrement vrais. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. 5 versets. 5 versets, c'est pas grand-chose. Et pourtant, regardez tout ce qui est déjà détaillé sur l'Éternel, sur la sainteté, sur la royauté de Dieu. Je suis pas un grand spécialiste de l'Ancien Testament, mais quand Dieu m'a mis ce passage, je me dis, il y a quelque chose à dire ici. Il y a quelque chose. Je veux parler à ton église. Je parle à mon église, ici à Boisvillers. Alors, voilà. Alors, je me suis toujours posé la question, pourquoi étudier l'Ancien Testament? Et moi, j'ai trouvé 3 raisons majeures. Oui. Ah, le vrai. Je dois juste appuyer sur le bouton ici à droite, je suppose. Ok. Alors, si ça, il faut que j'appuie, oui, il faut que je me tourne vers l'ordinateur. Ok, on va essayer tout ça. C'est vrai qu'on a tendance parfois à oublier l'Ancien Testament. On préfère le Nouveau Testament, les histoires de Jésus, le début de l'Église. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a avant. Et 3 raisons majeures. La première, c'est parce que l'Ancien Testament se trouve dans la Bible. Il y a tout un contexte autour de Jésus à essayer de comprendre. L'Ancien Testament est utile pour notre Église aujourd'hui. Deuxième raison, on peut comprendre Israël. Aujourd'hui, quand on entend parler d'Israël dans les médias, en tant que chrétien, parfois on se positionne pour Israël, mais on ne sait pas pourquoi on se positionne pour Israël. Et je me dis, c'est intéressant de relire la promesse que Dieu a donnée à Israël, une terre, un peuple qui va être béni parmi les nations. Qui va être béni parmi les nations. Et troisièmement, parce que l'Ancien Testament annonce un Messie qui est Jésus. On l'a entendu ce matin, le psaume 32. On peut entendre Isaïe 53, Isaïe 55. Dieu annonce déjà dans l'Ancien Testament qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir réconcilier son peuple. Pour les Juifs, il y a une réponse. Et pour nous, il y a une réponse que tout est possible par Jésus. Ni par Abraham, ni par Moïse, ni par Paul, tout est possible par Jésus. Le monde a été changé parce qu'il y a eu Jésus. On est en 2013 ans après Jésus-Christ. Il y a eu un avant Jésus, il y a un après Jésus. Et le monde a totalement changé. Depuis 2000 ans, bon nombre d'organisations sont nées parce qu'un homme est venu sur Terre et est venu réconcilier les hommes. Si on prend les Alcooliques Anonymes, si on prend l'Armée du Salut, si on prend la Croix-Rouge, si je pense à plein de choses en tête, des choses qui sont nées parce que Jésus est venu sur Terre. Jésus avait le souci de l'autre. Jésus avait le souci de l'être humain. Voilà. Alors, avant le texte, le contexte, on a une phrase qu'on avait à l'Institut Biblique qui disait « Il ne faut pas sortir un texte hors de son contexte, sinon on prend ça comme un prétexte. » Le contexte de ce passage, en fait, les psaumes, c'est une compilation de 5 petits livres. On a compilé. Et le psaume 93 fait partie, en fait, de la quatrième partie des psaumes. Donc il y a 15 psaumes. Et c'est des psaumes, en fait, de louange et de royauté, où on adore Dieu. Par exemple, le psaume 23 fait partie du premier livre. Et puis à partir du 107 à 150, c'est le cinquième livre. Alors, on pense qu'il a été composé pendant l'exil, donc vers moins 500, quand Israël était en exil, au temps d'Ésaïe, entre 40 et 55, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire. Et c'est un psaume qui est encore utilisé aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure. Et il parle de quoi? Si vous devez retenir une chose sur le psaume 93, il parle de la royauté et de la souveraineté de Dieu. Dieu est le roi, Dieu est souverain sur toute chose. C'est pas conditionnel. Voilà. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a d'autres psaumes comme le psaume 93 ou est-ce que c'est un psaume unique? Alors, j'en ai pris deux. Il y en a un qui se trouve dans le quatrième livre, il y en a un qui se trouve dans le deuxième livre. Et le psaume 47, je vais vous le lire. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume, vous, tout peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi pour toute la terre. Sur toute la terre. Il est un grand roi sur toute la terre. Je ne vous ai pas mis tous les versets, mais je vous invite à lire le psaume 47. Et le psaume 96, je n'ai pas non plus tout mis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Les dieux, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a d'autres dieux aujourd'hui? Alors, les points communs de tous ces psaumes. Donc, il y a des points communs que les théologiens ont attribués en disant, voilà, les critères des psaumes, il y a ça, 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 j'en ai retenu 5. Alors, cela concerne premièrement toute la terre, tous les peuples, toutes les nations, et pas seulement Israël. Quand on voit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il n'est pas que le berger d'Israël, il est aussi mon berger à moi, au quotidien, il veut prendre soin de moi. Il y a une référence à d'autres dieux, et là d'autres dieux, point d'interrogation. Je prends l'argent par exemple, qui est un autre dieu, je prends les jeux vidéo, je prends Internet, je prends le téléphone. Je trouve que j'avais discuté avec des amis en disant la dîme de notre temps, c'est aussi prendre 10% de notre journée pour Dieu. Ça peut être louer, ça peut être prier, ça peut être écouter des prédications. Et 10% de 24 heures, c'est 2h40. C'est le temps d'un film. Est-ce qu'on pourrait passer au moins une heure par jour avec Dieu? Lire, écouter, entendre. Il y a une différence entre écouter et entendre. Et puis il y a comprendre aussi. Tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est autour de nous, parfois nous empêche de nous connecter avec Dieu au quotidien. Parce qu'il y a tellement d'autres choses, on se dit que c'est tellement plus important. Parce que les autres choses me mettent en valeur. Les autres choses, ils font attention à moi. Troisièmement, c'est un signe d'exaltation et de leur royauté divine. Dans la majorité des psaumes, sont des psaumes d'exaltation, sont des chants d'exaltation. Où tous les psaumes reconnaissent la royauté de Dieu, qu'il n'y a personne comme Dieu. Et pour la plupart, c'est des psaumes de David, la moitié. Et ce que j'aime beaucoup chez David, c'est qu'il reconnaît la royauté de Dieu en sachant bien qu'il y a un autre roi qui est en Israël et qui parfois ne suit pas Dieu, Saül. Et quatrièmement, les caractéristiques de Dieu. On voit plusieurs verbes, notamment aussi dans le verset, dans le chapitre 93, établir, s'asseoir, juger, etc. Dieu n'est pas passif, Dieu n'est pas sur son trône en donnant l'ordre à des chantres, à des anges d'exécuter ses ordres. Non, il bouge. Des fois, j'ai même l'impression que le trône est vide. Le trône est vide dans le sens où Dieu est tout le temps debout, en train de faire plusieurs choses. La seule fois où Dieu reste assis, c'est quand Dieu écoute la louange de son peuple. Et quand le peuple est prêt à le louer. Et le dernier point, évidemment, ce sont des expressions, des attitudes de louange devant le roi des rois. Il y a plusieurs manières de louer, on le verra ce matin. Alors, les Juifs et le psaume 93, il faut savoir que les Juifs ont aussi une relation particulière avec le psaume 93 encore aujourd'hui. Pour la nouvelle année, donc on est en l'an chez les Juifs 5774, ça sonne presque post-apocalyptique chez nous, les Juifs chantent entre autres le psaume 93 et on va pouvoir l'écouter tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que les Juifs ont besoin de marquer la nouvelle année. Quand ils marquent une nouvelle année, ils remercient Dieu pour qui il est. Comme si la nouvelle année coïncidait avec le règne de Dieu. Les Juifs attendent toujours, d'ailleurs, une intervention divine sur terre. Mais les Juifs ne connaissent pas ou n'ont pas reconnu Jésus. Essayez d'appuyer sur le petit truc là, pour voir. C'est un truc qui doit durer, à mon avis, 2 minutes. C'est un chant qui chante pour la nouvelle année. Donc pour eux, c'est Rosh Hashanah, c'est au mois de septembre. Ça fonctionne pas ? Désolé. C'est pas grave, hein, mais... Je trouve qu'il y a une puissance dans le langage hébraïque, c'est pour ça que j'aime bien. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, Léa. Ça va être trop fort après, alors. J'utilise rarement le langage audio, je vais dire, quand j'utilise les PowerPoint, mais il y a deux choses dans lesquelles on est fort influencé dans notre monde, c'est à la fois l'image et à la fois le son. C'est gentil. Je laisserai ça à Camille et à ton papa. Ah, voilà. Bon, tu peux venir danser devant, tu peux venir chanter devant aussi. Ben voilà, vous entendez, on va dire un tout petit peu, mais le peuple de Dieu en Israël, en tout cas les Juifs encore aujourd'hui pour la nouvelle année, chante plusieurs psaumes, donc ça, c'est pas grave. Donc si vous avez l'occasion, mettez-vous le psaume 93 devant vous, imaginez-vous qu'on est en train de chanter le psaume 93. Donc, pour vous dire, voilà, l'utilité, on l'utilise toujours. C'est pas un psaume qui fait partie des psaumes. Non, on passe celui-là. Non, c'est des psaumes qui font partie des psaumes chantés. Un psaume, c'est un chant. Alors, je dis toujours que chanter, c'est prier deux fois. Et on l'a vu dans les PowerPoints de ce matin pour la louange, on peut soit lever les mains, mais on peut se mettre aussi à genoux. Il y a différentes manières de louer. Il n'y a pas une seule manière. C'est pas parce que mon frère se met à côté de moi et qu'il est debout que je dois forcément mettre debout, ou qu'il est à genoux et que je dois me mettre à genoux. Dieu nous donne à chacun une personnalité pour louer le Seigneur. Déjà, moi, je préfère me mettre à genoux, par exemple. Voilà. Pour moi, c'est un symbole d'humilité. Je lève les mains aussi, mais si je me donne le choix, je préfère me mettre à genoux en adoration. Alors, la puissance du psaume 93, Dieu déclare dans le psaume 93 que sa royauté est suffisante pour son peuple. Il n'y a pas besoin d'autres attributs, de ministres, de gouvernement. Et moi, ma question, c'était comment est-ce que je peux utiliser le psaume 93 aujourd'hui ? J'ai utilisé cette image parce que cette semaine, en fait, jeudi, il y a aux États-Unis, et je vais expliquer après aussi chez nous, Thanksgiving. Donc, Thanksgiving, c'est un grand repas où on mange ensemble, on mange en toute la famille. C'est un peu le Noël de chez nous. Et on ne fait pas juste manger ensemble, on se rassemble et on dit « Ok, moi, je voudrais remercier Dieu cette année parce que... » On remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous cette année. On reconnaît tout ce qu'il a fait pour nous cette année. Et cette semaine, ben, ça tombe dans la semaine où ce jeudi-ci, il y aura Thanksgiving. Et nous, on a, en fait, chez nous à Bruxelles, il y a un groupe de gars, il y a un groupe de filles. Pour Thanksgiving, on se rassemble ensemble, on va manger ensemble et on va louer le Seigneur ensemble. On va dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu as été fidèle avec nous cette année. Il faut remettre Dieu au centre parfois. Pas juste demander des choses, mais être reconnaissant. Parce que Dieu prend soin de nous toute l'année. Avant même que nous lui demandions, Dieu est là déjà. Et il dit, je sais que tu as besoin de ça. C'est moi qui t'ai fait, je sais que tu as besoin de ça. Donc si vous avez l'occasion, je dis, faites un repas simplement, dire pourquoi je pourrais être reconnaissant cette année. Alors, il y a trois choses essentielles. Il y a Dieu et la terre, il y aura Dieu et la nature, et il y aura la personnification de l'eau. J'ai commencé par Dieu et la terre. Et on a parlé ce matin que Dieu était dans le creux de notre main. Dieu prend soin de la terre. C'est lui qui l'a créée. Il connaît toutes choses. Et il nous connaît, nous, personnellement. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien, mais juste ici en dessous de son creux de sa main, il y a une croix. Ce n'est pas anodin, cette image. Je n'ai pas utilisé cette image anodinement. Mais dans le creux de sa main, il y a aussi une partie de ténèbres. C'est pour ça que je trouvais que cette image était parlante, parce que la croix a besoin d'être annoncée aussi au monde des ténèbres. Il n'y a pas que notre monde, il y a aussi, on va dire, un autre monde de gens qui ne connaissent pas Jésus et qui ne demandent peut-être qu'à le connaître, qui cherchent une solution pour leur vie. Alors, il a pris la force pour ceinture. Une ceinture, c'est fait pour serrer. Je voulais prendre une ceinture ce matin, j'ai oublié. Mais on l'utilise pour nous soutenir en tout cas pour les hommes. Elle nous soutient, elle soutient le pantalon, sinon le pantalon tombe. Et la sûreté de la ceinture, c'est être dans ses bras, dans les bras de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous prend juste comme ça. Il nous prend et nous serre. Il nous serre pour ne pas que nous tombions. Un psaume que j'ai pris, psaume 18, « Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. » Si Dieu nous prend, c'est parce qu'il y a aussi des combats autour de nous. Il ne nous prend pas juste pour le plaisir, il nous prend parce qu'il veut nous ceinturer, il veut nous protéger, il est notre forteresse. « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu, je t'ai ceint, je t'ai serré avant que tu me connusses, avant que tu m'aies connu. » Et si vous remarquez, Ésaïe 45, c'est dans la même symbolique que le psaume 93, puisque ça a été écrit au même moment. Alors, la confiance en Dieu, la foi, c'est les autres versets 3 et 4. Dieu nous demande de nous faire confiance, de lui faire confiance. Il est derrière nous. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé cet exercice, c'est assez marrant. La première fois qu'on le fait, on veut essayer de tomber, puis on met un pied derrière, parce qu'on n'est pas encore sûr. Et si vous voulez savoir si vous faites confiance à quelqu'un ou si quelqu'un vous fait confiance, vous dites « mets-toi derrière moi » ou je vais te fais-moi confiance, moi je vais t'attraper. Et votre cœur va vous dire délibérément si oui ou non vous lui faites confiance. J'utilisais cet exercice quand je faisais du théâtre, et c'est important de se faire confiance les uns les autres. La confiance en Dieu, la foi. Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser tomber dans les bras de Dieu, à vous laisser ceinturer dans ses bras? Pourtant, on a l'impression qu'il n'est pas, l'homme est loin sur l'image. Mais question c'est de la puissance de Dieu. Question c'est pas si Dieu peut nous rattraper au dernier moment. Si nous lui faisons confiance, ça dépend de nous, de lui faire confiance. Lui est derrière nous. À nous de savoir si on va mettre un pied derrière avant de tomber pour être pas sûr, ou si on vraiment veut se laisser tomber dans ses bras. Et on met les bras aussi comme ça justement parce que si jamais on tombe, on est serré quoi. Alors, deuxième point, après Dieu et la terre, Dieu est souverain sur la nature. La nature, en fait, précède la souveraineté sur, j'ai mis sur l'humanité. Ça, c'est le psaume 94, c'est juste après, en fait, c'est un psaume qui est juste après. Et Dieu crée la nature avant de créer l'homme. Dieu crée un espace, un environnement pour l'homme, un endroit pour que l'homme puisse vivre. Il ne veut pas d'abord créer l'homme, et puis l'environnement. Lorsqu'on, encore une fois, l'image de la femme enceinte, lorsqu'une femme va avoir un enfant, on prépare d'abord la chambre, on achète tout ce qu'il y a autour, on peint, on donne un endroit à l'enfant pour vivre, on lui achète un berceau, on lui achète plein de choses. Pourquoi? Parce qu'on veut que quand le bébé arrive, il soit bien, il soit dans un environnement. Plus que la voix est grande, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Troisièmement, Dieu domine la mer. On a besoin d'eau tous les jours. Une nécessité au quotidien. Dès qu'on se lève, bon, si on a soif, on boit de l'eau en vitesse, mais sinon on a besoin de la douche. Au déjeuner, on prend un café. Si on n'a pas d'eau, on n'a pas de café. À midi, on a besoin pour faire cuire nos plats. On a besoin d'un litre et demi à deux litres par jour par personne. Et tout ce que nous consommons a été nourri par l'eau. L'eau est une nécessité. Dieu domine la mer. Et j'avais un truc audio, mais je ne pense pas que ça va fonctionner. Mais c'est, vous savez, aujourd'hui, dans les séances de relaxation, on aime bien mettre un petit ruisseau. Et je trouvais que c'était important de comparer justement le petit ruisseau avec les grandes chutes du Niagara, par exemple. On voit que la puissance de l'eau, la puissance de l'eau. Le fleuve comme l'image d'une personne. On dit les fleuves grondent. Si Dieu entend la voix de la mer, pourquoi ne pourrait-il pas nous entendre? Dieu nous entend autant qu'il entend le bruit d'une chasse d'eau, par exemple. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Fonctionne pas. Quoi? Voilà. Alors Jésus l'a fait pour démontrer qui il était. Oui, j'utilise beaucoup d'images d'enfants parce que je suis professeur de religion, donc j'essaie de retrouver un peu comment je peux. Et je trouve qu'on reste des grands enfants à l'intérieur de nous, donc voilà. Voilà. Dieu a démontré qui il était en faisant taire la mer. Imaginez les disciples qui vivent avec Jésus depuis 2 ans, qui voient son œuvre, qui sont dans une barque, et devant la mer qui s'agite, ils sont terrifiés. Jésus s'endort paisiblement, ils vont le réveiller. Maître, maître, on va mourir si tu ne fais rien. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Et Jésus regarde la mer et dit, calme-toi, stop. Est-ce que la mer a attendu 1 heure avant de se calmer? Directement, instantanément, les disciples étaient stupéfaits. Qui domine la terre et la mer autre que Jésus? Qui a marché sur l'eau autre que Jésus? Et enfin, je vais terminer par le témoignage véritable de Dieu. La sainteté convient à ta maison. Ta maison, c'est aussi ton cœur. C'est aussi là où tu es au quotidien. Ton école, ta chambre, ton travail. Restez saints parce que Dieu veut vous voir saints. Il veut vous sanctifier. La maison de Dieu est tant dans l'Église que dans nos cœurs. La sainteté ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui nous la donne. Dieu nous donne cette sainteté. Et enfin, je vais terminer aussi par ça, une relation horizontale et verticale. J'ai pris l'image de la croix parce que Dieu veut que nous soyons également en relation les uns avec les autres, mais aussi avec lui. L'image de la croix. C'est pour ça que la nécessité de l'Église, que les gens ont du mal parfois à aller à l'Église parce que il y a une relation qui doit naître les uns avec les autres. On n'aime pas que l'autre nous connaisse, on n'aime pas que l'autre voit nos petits défauts. On aime bien garder cette image de nous parfaits. Mais c'est ce que Dieu veut, il veut une communauté de frères et de sœurs. C'est ce qui est né juste après la résurrection de Jésus. Une communauté qui est née, qui mettait tout en commun. Parce qu'un homme est mort sur une croix. Parce qu'un homme a fait que le voile dans la synagogue soit déchiré de haut en bas. Et qu'il y ait une relation pure, honnête, les uns envers les autres. En conclusion, on a parfois l'impression que Dieu est trop grand. On voit dans ce psaume, on se dit, mais qu'est-ce que moi je suis pour Dieu ? On a l'impression qu'on veut tirer un peu comme un enfant qui tire sur une veste comme ça, et qu'on ne voit pas. Et j'ai eu cette phrase, Dieu est trop grand pour moi, pourtant je ne suis pas trop petit pour lui. Dieu est trop grand pour moi, pourtant je ne suis pas trop petit pour lui. Dieu veut prendre soin de moi. On voit la royauté de Dieu et pourtant Dieu se soucie de sa création, Dieu se soucie de son peuple. Mais Dieu veut aussi avoir une relation avec chacun d'entre nous. Pas juste une relation, une restauration. Il dit, c'est pas comme ça que je t'ai créé. Je t'ai créé pour être un être comme ça. Pur, honnête, simple. Pas un être méchant et vil. Et pourtant, nous sommes les favoris de Dieu. J'utilise cette image parce que je suis un grand gourmand. J'aime beaucoup les pâtisseries. On est la cerise sur le gâteau. On est ce qu'il y a de plus important, ce qu'on mange en premier sur un gâteau, une cerise. On est son chef-d'œuvre. Il n'y a rien de comparable. Dieu ne nous échangerait pour rien au monde. Il s'est donné lui-même à la croix pour dire voilà, à quel point ils ont du prix à mes yeux. On est ses favoris. En fait, le mot grâce, en hébreu, hen, veut dire faveur. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, mon chanteur favori, mon groupe favori, mon émission de TV favorite, c'est une. Quand on parle de ça, on dit voilà, ça ne se justifie pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Pourquoi ? Parce qu'elle aime Chantal. Pourquoi tu aimes ta femme ? Parce que c'est elle et qu'il n'y a personne d'autre. C'est ta favorite, il n'y a personne d'autre. Elle est comme ça et c'est comme ça que tu l'aimes. Elle est unique. C'est sa favorite. Nous sommes les favoris de Dieu. Dieu nous aime tellement. Il a dit, j'ai pas besoin de me justifier pourquoi je les aime. Je les aime et puis c'est tout. C'est comme ça. C'est la grâce. Ce matin, on a besoin de retrouver la connexion avec Dieu. Il est mis en anglais. Oh zut, j'ai perdu ma connexion. Retrouver la connexion avec Dieu. On a essayé de couper le fil par le péché. Mais Dieu répare et dit, viens te connecter avec moi tous les jours. Dieu veut nous restaurer. En se connectant avec lui, on se restaure. Il ne va pas juste prendre une partie de notre épaule et juste gratter comme ça. Il va nous prendre de haut en bas. Il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur nos têtes. Il veut nous restaurer. C'est aussi pour ça qu'on vient le dimanche à l'église, pour être restauré dans cette image que Dieu nous a créée. Dieu veut vous retrouver comme il vous a créé. Dieu veut vous retrouver comme il vous a créé. Et je ne peux pas vous quitter ce matin en faisant un appel. Je ne peux pas vous quitter ce matin en vous disant, ce matin peut-être que Dieu veut que vous soyez restauré, mais c'est Seigneur, je ne sais pas comment je peux être restauré. Donc je vais vous inviter simplement à incliner vos têtes. Et si le pasteur est d'accord, on va, On va peut-être prier pour ceux qui veulent être restaurés ce matin.